Nous revoilà et on va poursuivre un peu en parlant de hockey junior, pas un peu, mais on va poursuivre immédiatement avec Stéphane Leroux qui est là. Bonsoir Stéphane.
Salut Mario.
Stéphane, je regardais ton fil Twitter puis les échanges défilés aujourd'hui puis les nouvelles liées à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je suis un peu étonné, on en a parlé là à quelques reprises, mais je suis étonné de voir des équipes y aller all-in, comme tu l'as déjà dit, comme les Foreurs de Val-d'Or, dans une année où il n'y aura peut-être pas de Coupe Memorial.
Oui, c'est la question que plein de gens se posent, mais en même temps, il va sûrement avoir une Coupe du Président. C'est déjà ça. Là. C'est,
oui.
Il faut pas minimiser l'importance de la Coupe du Président non plus. Tu sais, je veux dire, si jamais, effectivement, il n'y a pas de Coupe Memorial ou il n'y a pas une Coupe Memorial comme on est habitué de l'avoir, ben, il y aura quand même fort probablement une Coupe du Président. La LHJMQ, en ce moment, là, en plein cœur de la pandémie, en janvier, réussit à faire jouer des matchs dans des bulles et tout ça. Alors, peut-on penser que rendu en avril et en mai, que ça va aller mieux, puis qu'on va être capable aussi de faire probablement des séries éliminatoires, puis avoir au moins une Coupe du Président. Puis peut-être, on ne le sait pas, rendu au mois de mai, peut-être qu'il sera capable d'avoir 500 spectateurs dans un aréna comme à Val-d'Or, par exemple. T'sais. Puis l'autre affaire, pour prendre l'exemple des Foreurs, qui ne sont pas les seuls là, qui se sont améliorés durant les derniers jours, c'est, l'équipe était à maturité. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent? Qu'ils échangent leurs vétérans à une autre équipe pour recommencer avec des jeunes? Tu sais, je veux dire, les autres équipes aussi se seraient posé la question, puis tout ça, tu sais. Alors, on s'est dit, ben tant qu'à être rendu là, on va y aller jusqu'au bout, puis ça donnera ce que ça donnera, puis ne perdons jamais de vue une chose. Dans chaque transaction qui a été faite par les équipes juniors, il y a des clauses COVID, puis il y a des clauses si jamais il n'y a pas de Coupe Memorial. Tu sais, je vais lancer un exemple. Admettons que tu as acquis un joueur, puis que tu as payé un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un choix de troisième ronde. Mais il y a peut-être un petit caractère en bas qui dit, ben, s'il n'y a pas de Coupe Memorial, mon deuxième ronde, tu me le redonnes. Tu sais, je veux dire, c'est des choses comme ça là, pour se protéger. L'an passé, les équipes qui se sont fait prendre n'avaient jamais vu ça venir. Il n'y a pas personne à Noël l'an passé qui s'attendait à ce qu'on a vu.
Ça me fait penser au Phoenix de Sherbrooke. Eux autres n'ont pas pu se faire justice. T'sais, c'était leur année, potentiellement. Je ne dis pas qu'ils auraient tout gagné. Mais
l'an passé.
Ça, exact. Mais ils n'ont jamais pu se rendre au bout.
Mais non.
Et là, par contre, la différence cette année, c'est que là, on a appris à négocier, à vivre à travers la pandémie, même s'il n'y a pas de spectateurs. Donc là, ça joue. Et je me mets dans la peau de quelqu'un qui était dans un cycle et c'était l'année où le cycle devait aboutir. Tu veux prouver à ceux qui t'engagent qu'ils ont raison de te faire confiance aussi, non? En
exact.
Ce sens que
c'est le cas de Val-d'Or. C'est le cas de Val-d'Or, tu sais. Je veux dire, eux, là, ils avaient commencé le cycle pour arriver à terme cette année il y a 3 ans et demi à peu près. Puis quand ils ont fait l'acquisition de Jacob Pelletier l'été dernier, on était en train de sortir de la pandémie, tu te souviens, au mois de juin, puis tout ça, puis on aspirait à des jours meilleurs cette année. Bon, oui, on disait peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague, mais on pensait peut-être pas que ça frapperait aussi fort que ça. Alors, il a commencé, il est allé chercher Jacob Pelletier, puis là, il en a ajouté d'autres au fil du temps, puis là, ben, il s'est dit, je fais quoi, j'arrête? Mais non, je vais aller jusqu'au bout de mon projet, puis on va essayer de gagner. Puis, tu sais, si on gagne la Coupe du Président, puis qu'il n'y en a pas de Coupe Memorial, ben ils auront quand même le loisir de dire qu'ils ont été champions de la LHJMQ, ce qui est quand même pas rien. Puis pour venir à la Coupe Memorial, tu sais, en ce moment, en Ontario, ça bouge pas gros. Mais tu sais, dans l'Ouest, je pense qu'éventuellement, on va jouer des matchs. Qui est-ce qui nous dit que peut-être en juin, il y aura une série 3-5 entre les champions du Québec et les champions de l'Ouest pour déterminer la Coupe Memorial? Tu sais, ça sera peut-être
Pourquoi pas
à la ronde avec les trois ligues, tu sais, mais je lance de quoi comme ça, tu sais, c'est des choses qui se parlent en ce moment puis qui sont possibles. Mais ceci étant dit, quand moi je lis sur les fils Twitter, les amateurs qui posent ce genre de questions-là, pourquoi faire ça quand il n'y a pas de Coupe Memorial? Hey, la Coupe du Président, c'est quand même pas rien, là, je veux dire, c'est un championnat de ligue, là.
T'as raison. Ouais. Somme toute, la Coupe Memorial, c'est un tournoi d'une semaine et tu joues quoi?
Quatre matchs
au maximum? 4-5 peut-être?
Ouais, ben, ça peut aller à 6 quand tu joues le match de bris d'égalité, là.
Exact.
Mais généralement, t'as raison, c'est 4 ou 5, là.
Ouais. Ah, ouais, non, mais présenté de cette façon-là, j'adhère et je comprends totalement. Puis c'est sûr que tu travailles, tu sais, t'as perdu des matchs en début de cycle pour arriver là. Puis tu sais, à un moment donné, tu veux prouver, tu veux monter, t'es un coach, t'es un DG, peu importe, ou tu veux juste être reconnu parce que tu fais du bon travail.
Puis là, la seule chose, Mario, qui est décevante pour une équipe comme Val-d'Or, c'est que c'est pas un gros marché. Alors là, avec une équipe comme ils ont en ce moment, si on était dans des situations normales, il y a fort à parier qu'il y aurait des bonnes foules à chaque match pour aller voir.
Ben oui.
Le retour monétaire, tu l'auras pas. Tu vas peut-être avoir le retour de la fierté d'avoir la photo avec la coupe si jamais tu la gagnes, mais tu n'auras pas jamais ce que tu aurais pu mettre en banque. Parce que, on va se le dire, il y a des équipes juniors là, que quand c'est leur année, comme on dit, puis tu parlais de Sherbrooke l'an passé, c'est exactement ça. Combien Sherbrooke, à combien peut-on chiffrer les pertes d'une équipe comme Sherbrooke l'an passé quand on sait qu'ils étaient seuls dans l'association de l'Ouest pour aller jusqu'au bout. C'est sûr qu'il aurait joué 8, 9, 10 matchs locaux à 4 000 spectateurs par match, plus ou moins. C'est 40 000 spectateurs. Multiplie ça par 15 $, ça fait-tu 600 000, ça, là? Plus la bière, plus les souvenirs, plus. Enlève quelques dépenses là-dedans. On peut parler de quelque chose entre 400 et 500 000 $ de perte, peut-être l'an passé, pour une concession comme Sherbrooke. Alors, Val d'Or, ben, c'est peut-être un peu la même chose cette année. L'amphithéâtre est un peu moins grand à Val d'Or, mais tu sais, on aurait probablement fait ça le compte. C'est pour ça que moi, j'espère, j'aime à penser que peut-être en mai, tu sais, dans un aréna de 2 500 places à Val d'Or, on va être capable de peut-être mettre 500 personnes, puis on va réussir peut-être à sauver un peu de retour monétaire dans tout ça, là. T'sais.
Possiblement. Du côté des transactions hockey, là, j'ai fait allusion à Samuel Poulin. Et le jeune Roy qui s'en vient à Sherbrooke, peux-tu m'expliquer les principaux mouvements personnels de la journée, Stéphane?
Les gens qui ont suivi la saga de Pierre-Luc Dubois avec Columbus dans la Ligue nationale, ben, tu sais, c'est un peu ça qui vivait Joshua Roy. Il avait demandé lui aussi aux Sea Dogs de Saint John de l'échanger. C'est un haut choix de repêchage junior, le premier au total de 2019. On n'a pas su les véritables raisons, comme on n'a pas su les véritables raisons dans le dossier Dubois à Columbus non plus. On se garde ça à l'interne du côté du clan de Joshua Roy, mais visiblement, il y avait un problème à Saint John. Il y avait le fit qui n'était pas bon, comme on dit. Puis il avait demandé aux Sea Dogs de l'échanger. Il s'était pas représenté à Saint John le 3 janvier pour débuter sa quarantaine. Puis là, il a attendu, puis c'était aujourd'hui la date limite. Puis Sherbrooke, avec tous les mouvements de personnel qu'ils ont fait, que ce soit dans l'échange de Poulin puis les autres vétérans qui ont laissé partir, je pense qu'ils ont acquis quelque chose comme 16 ou 17 choix au repêchage. Alors, ils en ont liquidé 4, 3 choix de première ronde, un choix de deuxième ronde pour aller chercher ce jeune-là, qui est encore là pour 2 ans et demi minimum avec le Phoenix de Sherbrooke. Il a 17 ans, donc il va finir la saison cette année plus 2 autres. C'est un gars qui va être repêché dans la Ligue nationale. En ce moment, il est classé en deuxième ronde. Est-ce qu'il va pouvoir monter dans les classements ou est-ce qu'il va rester là? Mais pour donner une idée aux gens, c'est un joueur qui, dans son année midget à 15 ans, avait des meilleures statistiques qu'Alexis Lafrenière. Je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur qu'Alexis Lafrenière. Je pense que Lafrenière a une coche sur lui. Mais en termes statistiques, ce qu'il a fait avec les Chevaliers de Lévis dans la Ligue Midget 3 il y a 2 ans, s'apparentait beaucoup à ce qu'Alexis Lafrenière a fait avec les Vikings de Saint-Eustache quand il avait 15 ans. Alors, on verra le développement au cours des prochaines années. Sherbrooke a décidé d'y aller, de repartir un cycle. Alors, c'est sûr que cette année, on va avoir de la difficulté un peu, mais on espère qu'en 2022-23, on va être capable de monter une équipe intéressante. Puis lui, à ce moment-là, aura 19 ans et ce sera le joueur sur lequel probablement on va se rabattre en espérant qu'à ce moment-là, ben, il n'y ait pas de conditions comme on a vécu le printemps dernier puis que Sherbrooke puisse arriver à la terre promise.
OK, alors Sherbrooke, eux autres, ils repartent sur
ouais,
un autre...
Ils ont échangé Patrick Gay, ils ont échangé des vétérans de 19 et 20 ans qu'ils avaient, des défenseurs. Puis Samuel Poulin, évidemment, c'était un espoir de premier plan pour Pittsburgh, mais là, on s'en va nulle part cette année. Même si Sherbrooke gardait Samuel Poulin, on n'aurait pas gagné à Sherbrooke. On n'aurait pas été capable de battre, exemple, Val d'Or ou Blainville. Alors, t'es bien mieux de l'échanger quand il reste 3-4 mois de hockey à jouer pour acquérir des choix puis repartir la roue. C'est comme ça que ça fonctionne au hockey junior. Ce sont des cycles de 3 ans, 4 ans. La maturité de Sherbrooke, c'était l'an passé. Puis cette année, il n'y avait pas de mauvaise équipe cette année. T'sais, si tout le monde avait été là en place au début, il y aurait eu une décision à prendre. On réessaye-tu cette année, comme Chicoutimi a fait, ou bien on va penser à l'avenir. T'sais, Chicoutimi avait une bonne équipe l'an passé aussi. Ils ont décidé de s'améliorer encore cette année pour espérer y aller cette année aussi, parce que le noyau est encore assez solide. Même si l'équipe de cette année va être un peu moins forte que celle de l'an passé, et ils essayent quand même d'être parmi les équipes qui vont gagner. Puis t'as Victoriaville qui s'est améliorée, puis t'as Saint John, puis t'as Charlottetown, puis t'as Blainville. Alors ça va être dans ces 6-7 équipes-là, normalement, là, que le championnat des séries du Québec va se jouer cette année. Là.
Un petit mot en terminant sur l'entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi. 500 victoires, le plateau de 500 victoires qui est atteint. Parle-moi de Yannick Jean. Est-ce que c'est un gars qu'on pourrait voir dans les niveaux supérieurs éventuellement?
Oh, je sais pas. Je sais pas s'il aspire encore à ça. Je sais pas. Je pense que tous les entraîneurs, quelque part, ont rêvé. Lui, il est établi à Chicoutimi. C'est un gars de là-bas. Il a joué pour les Saguenayens dans le milieu des années 90. Il a grandi dans cette organisation-là. Il a fait son bonhomme de chemin. Il a dirigé à l'Île-du-Prince-Édouard au départ. C'est Serge Savard Junior qui avait donné sa première chance comme entraîneur-chef. Il avait été adjoint avec Richard Martel à Chicoutimi auparavant. Puis là, ben, il a dirigé à Victoriaville pendant plusieurs années. Puis là, il est bien installé à Chicoutimi, directeur général, entraîneur-chef. Puis hier, il a signé la 500e victoire. C'est seulement le 5e dans l'histoire de la Ligue à se rendre à ce plateau-là. Il l'a fait à l'âge de 45 ans, ce qui égale la marque que Guy Chouinard avait quand il a gagné 500 matchs aussi dans la LHJMQ. Puis tu sais, il est bien en selle. Il lui manque quoi? Le 90 victoires pour devancer celui qui est au premier rang de tous les 100, qui est justement le député du Saguenay, Richard Martel, avec lequel il a travaillé. Alors, Ça va probablement se faire au cours des prochaines années, mais c'est un gars qui est bien en place, une bonne tête de hockey, puis c'est un bon coach, mais peut-être pas un coach qu'on va voir dans un niveau supérieur, mais certainement un coach de junior.
Mais tant mieux si on peut en garder des bons, puis on peut en garder longtemps. Oui, les deux autres, Guy Chouinard, Richard Martel, Yannick Jean, les deux autres à 500 et plus, j'imagine Mario Durocher
Réal,
là-dedans.
Réalement, Mario Durocher.
Oui, c'est ça, Réal, j'avais oublié Réal, parfait. Réal.
Ah, Mario Durocher l'a fait il y a quelques années, puis Mario est encore actif avec le Titan d'Acadie Batters, puis Réal, Guy Chouinard, puis Richard Martel, ben, ne dirige plus en ce moment.
Et Mario, si tu comptes ses matchs comme adjoint, là, lui doit être rendu pas loin de 1500.
Il n'y a pas personne qui a passé plus de temps derrière un banc de la Ligue junior majeure du Québec que Mario Durocher. Si tu additionnes la saison régulière comme entraîneur-chef, comme adjoint, oui. Là, il est rendu à 1500-1600 matchs, là, quelque chose comme ça.
Et c'est quelque chose. Merci beaucoup, Stéphane. Ah. Une excellente soirée. Content de t'avoir parlé ce soir.
Merci, Mario. Salut.
À bientôt. Bye-bye. Et dans quelques instants, place au UFC 257. Conor McGregor s'est fait passer knock-out par Dustin Poirier. Avez-vous regardé ça? Qu'en avez-vous pensé? Charles Jourdain, comme beaucoup d'observateurs, s'attendait à une victoire de Conor McGregor. On se prépare déjà, semble-t-il, pour une trilogie. D'ailleurs, les deux gars se sont parlé en fin de semaine après le combat. Donc, l'opinion de Charles Jourdain, maintenant qu'il a vu ce que nous avons tous vu, si vous étiez au rendez-vous samedi soir, après la pause.